Virage Marseille avec Oco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil. Santé, prévoyance, auto, habitation.
Bonjour à tous, bienvenue dans Virage Marseille, toujours délocalisé comme chaque jour de la semaine ici à Vitrolles, au centre commercial Grand Vitrolles. On va accueillir sur ce plateau ce mardi Seb Piocel, habitué de Virage Marseille, ancien joueur du FC Nantes notamment. Bon, pas trop triste.
Pas du Stade Rennais. Hein.
Pas du Stade Rennais, mais du FC Nantes. Pas trop triste Seb, après la descente des Canaries.
On s'y attendait depuis un moment, mais bon, c'est comme ça. Ils remonteront, j'espère.
On espère en tout cas pour ce club historique du championnat de France. À côté de toi, Yannick, qui est le directeur de la galerie commerçante. Merci de nous accueillir d'ailleurs ici au centre commercial Grand Vitrolles. Alors messieurs, émission un peu particulière puisqu'on a appris ce lundi soir que l'Olympique de Marseille avait trouvé son nouveau directeur sportif en la personne de Grégory Lorenzi, un directeur sportif français, pour revenir un petit peu aux bases finalement à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà, le sentiment général, avant de rentrer dans les détails, Seb?
Alors moi, la particularité, c'est que je connais assez bien Greg, hein, puisqu'on a joué quelques mois ensemble à Arles-Avignon, et puis surtout, on était formé à Nantes. Greg, même s'il n'a pas joué en pro, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc forcément, que si on me demande mon avis, je valide. Ce qui est sûr, c'est qu'on prend quand même un virage par rapport à ce qui se faisait ces dernières années. Et je pense que ça peut être un bon virage, parce que même si ça restera toujours un métier différent d'être directeur sportif à l'OM qu'à Brest ou un autre club de Ligue 1, je pense que l'OM aujourd'hui a besoin quand même un peu de stabilité, de se retrouver déjà en France. Ça fait depuis 2010 qu'il n'y a pas eu de titre. Peut-être, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, que par moments on se voit un petit peu trop grand, on se voit un peu trop beau. Et que peut-être la base, c'est, je ne dis pas de prendre que des joueurs de Ligue 1 ou de Championnat de France, mais voilà, surtout avoir une continuité, d'avoir des joueurs qui connaissent le championnat. Et même si j'ai entendu déjà dire qu'il n'avait pas de réseau, excusez-moi, mais ça fait quand même 10 ans qu'il est directeur sportif et du réseau, il en a. Mais je crois que le plus important, c'est, voilà, c'est vraiment d'être dans la continuité. Et puis pour lui, c'est surtout le choix du coach qui va arriver.
Oui, c'est important de choisir un directeur sportif rapidement pour qu'il puisse se mettre au travail dès la fin de son contrat avec Brest, même si on sait qu'il y a des arrangements entre clubs pour qu'il puisse travailler sereinement.
Bon, après, même si on sait que c'est Flo Germain qui a donné l'info, et il a toujours pas signé, on sait jamais.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'était Nice, Marseille,
c'était Nice,
on pourrait pas le rattraper au vol. Non, je plaisante, mais oui, c'est vrai que le plus vite possible pour pouvoir préparer la suite, même s'il reste un match qui va aussi déterminer en espérant qu'il y ait une victoire contre Rennes. Quelle Coupe d'Europe pourrait jouer l'OM la saison prochaine? Ça va aussi déterminer le mercato la saison prochaine.
Yannick, ton sentiment sur l'arrivée de Grégory Lorenzi, un Français qui connaît parfaitement le championnat de France, comme l'a dit Seb, c'est ce qu'il faut pour toi, l'Olympique de Marseille?
Je pense que Seb le disait très bien à l'instant, je pense qu'il faut de la stabilité pour l'Olympique de Marseille. Le CV du nouveau directeur sportif est plutôt intéressant. 10 ans à Brest. Les moyens qui ont été déployés, en tout cas les résultats qui ont été obtenus avec l'équipe de Brest, sont plutôt quand même intéressants. Il a amené le club jusqu'à la Ligue des Champions, il a amené de la stabilité, ça fait presque 10 ans que le club est en Ligue 1. C'est quand même une belle longévité pour ce club-là. On en discutait tout à l'heure, aujourd'hui les moyens qui lui seront donnés ne seront pas les mêmes, les moyens financiers. Quelque part, il y a un bon projet à aller chercher, effectivement.
Seb, tu le disais, Nice était sur le dossier. Il y avait même plus qu'un accord verbal hein, entre les deux parties pour qu'il aille du côté de la Côte d'Azur. L'OM a réussi à le rattraper en vol. Est-ce que ça veut dire que quand même, malgré le fait qu'il n'y ait pas de Ligue des Champions la saison prochaine, l'OM, bah, ça ne se refuse pas finalement?
Alors, on ne connaît pas tout du dossier et il faudra lui demander quand il sera là. Mais c'est vrai que l'OM, c'est un club à part. Bien sûr, bon, déjà Nice, il y a eu aussi une grosse incertitude par rapport au classement. Mais je pense que ce n'est pas ça. Je pense que comme c'est dit, il y a une vraie volonté de l'OM de le faire venir. Et puis, quand il y a une possibilité comme ça, après 10 ans, encore une fois, c'est un jeune directeur sportif par l'âge, mais pas par l'expérience. Il est passé de joueur à directeur sportif. Il avait quasiment un rôle de président délégué, puisqu'il faisait, il faisait tout. Il y avait une confiance énorme de la part du président Le Saint
sur Brest. Et c'est ce qui va être un peu le cas avec l'Olympique de Marseille. Stéphane Richard ne s'intéressera pas à la partie football.
Et c'est là où je voulais en venir, en fait. Peut-être que ça aurait pas matché. J'aurais eu, moi, cette impression-là, si ça avait été encore Pablo Longoria, par exemple, qui était plus un président directeur sportif. Là, il va avoir toutes les cartes en main. On va lui laisser développer la politique sportive du club. Bien sûr qu'il va y avoir des objectifs et qu'il y aura une pression beaucoup plus importante qu'à Brest. Mais ça, je pense que s'il vient, il le sait déjà. Et puis, c'est comme dans n'importe quel métier. Je pense qu'on a toujours envie de se challenger et que c'est une opportunité qui arrive maintenant. C'est un directeur sportif, un dirigeant qui était plutôt demandé aujourd'hui, qui avait le vent en poupe. Et il a choisi l'OM. Et je pense que pas mal de directeurs sportifs auraient fait ce choix-là aussi.
Alors justement, avant de continuer de débattre à propos de l'arrivée, probable, on le rappelle, rien n'est sûr, mais vu toutes les informations qui nous remontent, c'est quasiment fait. On va écouter Daniel Riolo qui nous parle du message que ça envoie dans ce recrutement de Grégory Lorenzi à l'Olympique de Marseille.
Quel message ça envoie ? Donc, il a un beau CV. Est-ce qu'il a un réseau international ? Je ne sais pas. Est-ce que ça envoie le message que l'OM baisse ses ambitions ? Et ils vont devenir actifs sur un marché un petit peu plus français, sur des joueurs moins chers.
Moi, c'est ça le message surtout que je reçois.
Mais c'est pas un mauvais message pour l'OM.
Mais je te dis pas que c'est un mauvais message. Je cherche à comprendre quel est le message. Je pense que le message est clair. Là.
Voilà, on vient d'écouter Daniel Riolo. Un bon message finalement envoyé au club, un message de stabilité. Maintenant, l'un des plus gros chantiers de Grégory Lorenzi, ça va être de trouver l'entraîneur, Yannick, de cette équipe de l'Olympique de Marseille, version 2026-2027. On sait qu'il a fait un choix, qu'il a fait des choix audacieux, notamment à Brest en ramenant Éric Roy. Est-ce que tu as envie de voir un choix tout aussi audacieux ou une valeur sûre du championnat de France pour le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille ?
Ce qui est sûr, c'est que l'Olympique de Marseille mérite un choix audacieux. Sébastien le disait tout à l'heure, l'Olympique de Marseille, c'est un cas particulier dans le football français, même dans le football mondial. On a des cas d'excellents joueurs, d'excellents entraîneurs qui sont passés, mais qui ont subi une certaine pression, un métier qui est particulier à l'OM. Donc effectivement, il faut un choix audacieux, je pense, pour l'OM. Mais encore une fois, je le dis à nouveau, je pense que l'Olympique de Marseille mérite de la stabilité, mais le prochain coach et le prochain directeur sportif méritent aussi de la stabilité pour pouvoir travailler sereinement sur la suite.
Et parce qu'on avait promis avec l'arrivée de Zerbi de la stabilité, un projet sur 3 ans. Finalement, au bout d'un an et demi, plus rien. On parle de Genesio sur le marché des transferts, de Christophe Galtier. Est-ce que toi, ton cœur penche, Seb, vers l'un de ces profils-là ?
Oui, alors en plus de ça, comme il avait fait un petit peu à Brest et ça avait été, alors pas décrié, mais l'arrivée d'Éric Roy, alors que ça faisait un moment qu'il n'avait pas entraîné, avait surpris. Et finalement, il avait réussi son pari. Effectivement, je verrais bien un entraîneur avec un peu de bouteille. Il n'y en a pas 50, en tout cas. Alors, ce n'est pas le truc d'être seulement français. C'est de bien maîtriser le championnat de France. Parce que souvent, on se dit que c'est un championnat qui est moyen. On est les premiers, des fois, à le critiquer. Et quand que ce soit des entraîneurs ou des joueurs qui arrivent après dans le championnat, ils te disent rapidement, le championnat de France, il est compliqué, il est dur. Et c'est vrai que là, tu as donné deux noms qui me semblent cohérents. Alors, Genesio, le Lyonnais, bon, il faut voir, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quand même, on ne le présente plus, il a un gros CV. Et le choix, tu me parlais le choix du cœur, même si Christophe est passé par le PSG, je pense qu'il s'en voudrait toute sa vie de pas avoir entraîner l'Olympique de Marseille, c'est peut-être une solution. Après, encore une fois, ça sera le choix scruté de Greg Lorenzi s'il arrive à Marseille. Et forcément, c'est le choix le plus important. C'est ce qui va déterminer après le projet.
Le projet qui va être, on l'imagine, sur des bases un peu plus saines que ce que l'on vit cette saison du côté de l'Olympique de Marseille. Il faut aussi un entraîneur qui soit un peu moins bouillant, un peu moins expressif. On a eu De Zerbi, on a eu Sampaoli, on a eu Tudor, des entraîneurs bouillants que l'on disait correspondre finalement à l'ADN de l'Olympique de Marseille. Est-ce que là, il faut quelqu'un un peu plus posé, un peu plus calme ? On pense à Genesio, on sait que voilà, c'est un entraîneur qui est moins extraverti.
Je te coupe, mais encore une fois, ça fait un moment que j'habite ici et j'ai toujours aimé l'OM. Ça sera toujours les résultats qui vont dicter ça. On pourra amener qui tu veux. Dès l'instant où il n'y aura pas de résultats, où il n'y aura pas de jeu, à un moment donné, l'entraîneur sera décrié et le directeur sportif aussi. Bien sûr que De Zerbi, Marcelo Bielsa, tout ça, ils étaient alors encore plus Bielsa, un peu idolâtrés, mais sans qu'il y ait finalement de titre. Donc je pense qu'il faut un peu plus de pragmatisme, de choses factuelles. Et c'est vrai qu'on n'a pas de boule de cristal, mais ces profils-là permettraient d'avoir un peu plus de sérénité, surtout pour un jeune directeur sportif comme Grégory Lorenzi.
Alors, le travail du directeur sportif, c'est de recruter l'entraîneur, mais aussi les joueurs. C'est la première fois depuis que McCourt arrive au club que l'on va avoir un directeur sportif qui parle français, qui est français. Est-ce que là aussi, ça va pouvoir aider à reconstruire l'Olympique de Marseille avec des bases plus locales, moins exotiques, comme ce que l'on a pu voir depuis l'arrivée de Franck McCourt
à l'OM? Je reprends quand même, parce que Mehdi Benassia parlait français et connaissait
le championnat de France. Oui, mais vraiment, un français...
Non, là, je pense qu'on est encore sur un nouveau cycle. Alors... c'est un peu à la mode, les projets. Et puis des fois, on se dit qu'il y a un projet sur 3 ans. Et puis au bout de 6 mois, parce qu'on n'a pas le temps et parce que les résultats sont décevants, on change tout. Non, je pense que c'est la stabilité. La chose qui est sûre, c'est qu'avec Grégory Lorenzi, ou en tout cas ce profil de directeur sportif, c'est qu'il va avoir les cartes en main. On va le laisser travailler. Et ensuite, le juge de paix, ça sera les résultats qui vont aller avec. Je l'espère pour lui.
Yannick, tu as envie de voir des joueurs français, des joueurs qui connaissent le championnat de France dans ton Olympique de Marseille version 2026-2027?
Je pense que ça peut être une bonne chose parce que des joueurs qui connaissent le championnat français pourront sûrement peut-être mieux s'adapter à ce championnat, dans la continuité de ce qu'ils savent déjà faire ailleurs. On a des très bons joueurs dans le championnat français. Encore une fois, quand on regarde le CV de ce potentiel prochain directeur sportif, c'est 10 ans au Stade Brestois. Donc c'est une vraie connaissance du football français. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus fermer des portes et ne pas aller chercher des joueurs ailleurs si les joueurs sont aussi intéressants ailleurs.
Il faut des joueurs qui aient la culture de la gagne.
Voilà, c'est ça.
Et ça, ils pourront aller les chercher.
C'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas qu'on soit sur que du franco-français. Enfin, en tout cas, qu'on s'arrête là-dessus. Et ça me fait un peu sourire par rapport au réseau de Greg Lorenzi. Il a aussi un réseau à l'étranger. Il ne faut pas que les joueurs viennent forcément pour un directeur sportif ou pour un entraîneur. Il faut qu'ils viennent pour le projet de l'Olympique de Marseille, celui qu'on va leur présenter, qu'on va leur proposer. Et puis surtout que ces joueurs-là arrivent à rester plus de 6 mois ou 1 an au club pour qu'il y ait une vraie identité, pour que les supporters s'identifient. Parce qu'on sait que c'est très compliqué. Moi, ça aurait été un de mes rêves de jouer à l'OM. Je n'ai pas pu le réaliser. Mais je ne sais pas si même mentalement, j'aurais pu être capable de le faire. C'est vraiment un club à part. Mais bon, c'est une bonne pression. C'était Marcel Desailly à l'époque qui disait à Pape Diouf, paix à son âme, quand il avait Monaco et l'OM, il voulait absolument venir à l'OM parce que c'était bouillant, parce qu'il y avait de l'ambiance. Il faut que les joueurs soient persuadés de ça et qu'ils soient à la hauteur.
Allez messieurs, on va marquer une courte pause, on arrive à la fin de cette première partie. Dans la seconde partie, on va s'intéresser au premier grand chantier de Lorenzi, c'est ce mercato d'été qui se profile avec des dossiers brûlants, notamment celui de Mason Greenwood. À tout de suite. De retour dans Virage Marseille, toujours le plateau délocalisé au centre commercial Grand Vitrol pour toute la semaine. On est toujours avec Seb et avec Yannick. On va parler dans cette deuxième partie, messieurs, des travaux qui attendent le nouveau, futur directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi, avec un énorme dossier. Celui de Mason Greenwood, la plus grande valeur marchande de l'OM depuis probablement ces 10 dernières années. Seb, est-ce que tu sens que Lorenzi peut avoir les épaules, avoir le réseau pour trouver une porte de sortie avec une somme conséquente à la clé pour Mason Greenwood?
Encore une fois, ça me fait sourire parce qu'on a l'impression qu'on ramène quelqu'un qui ne connaît pas le football, qui n'a jamais fait une vente de sa vie. Alors bien sûr, encore une fois, c'est un club à part et Mason Greenwood, ça sera certainement une des ventes souhaitées par le club pour récupérer de l'argent. Maintenant, c'est pas le genre de vente les plus compliquées. Les plus compliquées, c'est les joueurs qui ont des gros salaires, mais qui sont pas trop demandés. Et il faut réussir, excusez-moi du terme, à les refourguer. Donc, il sera attendu.
Et ça, c'était l'une des forces de Benassia d'ailleurs, de réussir quand il y avait des échecs, à tout de suite faire rebondir les joueurs à autre part.
Ouais, c'est là où on parle aussi de réseau, parce que la problématique qu'il peut y avoir à l'OM, c'est aussi les salaires des joueurs. C'est que derrière, ils peuvent avoir un projet sportif qui est intéressant. Mais forcément, ils perdent de l'argent, donc il faut trouver des solutions. Pour ce qui est de Greenwood, je pense que entre guillemets, il a fait son temps, c'est-à-dire sur une saison aussi compliquée sportivement, hors du terrain. Il a réussi encore une fois à tirer son épingle du jeu, même si ça a été un peu plus compliqué là, sur la deuxième partie de saison. Et en termes de valeur marchande, c'est sûr que ça permettrait aussi de récupérer un peu d'argent, notamment pour ma courte qui en dépense beaucoup.
Et on le rappelle, l'Olympique de Marseille ne possède que 60% des droits sportifs de Mason Greenwood, 40% pour Manchester United. Est-ce que Yannick, il faut vendre absolument Mason Greenwood ? Hier, il a lâché un petit mot, bon, même si c'est de la communication lors de sa nomination au trophée UNFP. Il a dit « j'aimerais rester à l'Olympique de Marseille ». Est-ce que les supporters veulent le voir rester ou est-ce que, comme je disais, il faut le vendre parce que c'est la plus grosse valeur marchande du club et il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses du club ?
Je pense qu'il y a effectivement une bonne partie des supporters qui veulent le voir rester. C'est quand même un joueur qui a été performant. Maintenant, voilà, tu le disais, il a une belle valeur marchande. Quand on voit l'expérience de Grégory Lorenzi sur les 10 dernières années à Brest, il a quand même fait des bons coups à moindre coût. Est-ce que on n'a pas justement vocation à aller chercher un peu d'argent, un peu de trésorerie pour aller chercher des joueurs peut-être un peu moins flamboyants, un peu moins starifiés, mais qui peuvent aller aider l'OM à chercher des beaux succès nationaux.
Des beaux succès nationaux et pourquoi pas la Ligue Europa. On le rappelle, il y a une finale à jouer contre Rennes dimanche prochain du côté de l'Orange Vélodrome. Seb, la Coupe d'Europe, ça va conditionner finalement tout le travail de Grégory Lorenzi dans ce mercato d'été. S'il y a une Ligue Europa, déjà c'est pas pareil que s'il y a une Ligue Europa conférence et c'est encore moins pareil que s'il n'y a pas de Coupe d'Europe et encore tout reconstruire avec une saison qui sera 100 matchs la semaine.
Oui, c'est sûr. Bon, déjà, sur l'aspect financier, même si ce n'est pas la Ligue des Champions, la Ligue Europa, ça reste quand même assez intéressant, même en termes d'exposition. Et puis aussi, pour attirer les joueurs, la Conference League, même si on peut pas la mettre à part, ça reste une Coupe d'Europe. Mais déjà, financièrement, elle est moins intéressante. Ça te fait quand même jouer le jeudi. Donc, ça fait aussi que tu dois avoir un effectif assez, assez important pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Donc là, au mieux, ça sera la Ligue Europa. J'espère pour l'OM qu'ils vont réussir à la récupérer dimanche face à Rennes. Mais effectivement, le mercato, en tout cas en termes de rentrée, sera pas le même. On a déjà vu l'OM ne pas jouer de Coupe d'Europe et réussir à attirer des joueurs importants.
Oui, la première saison de De Zerbi, d'ailleurs.
Exactement. Mais encore une fois, on s'aperçoit aussi que dans l'adéquation, l'année où tu joues une Coupe d'Europe, il faut vraiment que tu sois costaud en termes de d'effectifs, en termes de qualité de joueurs, de quantité de joueurs. Je sais qu'on a tous envie de jouer une Coupe d'Europe ici, mais pour moi, soit c'est la Ligue Europa, si ce n'est pas de Coupe d'Europe, ça serait pas plus mal, à mon avis.
Oui, parce qu'on sait que l'année où De Zerbi arrive à l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria table les finances pour une qualification en Ligue des Champions. Cette année, ça a été pareil. On a peur de voir le résultat de l'Olympique de Marseille en termes de finances à la fin de cette saison avec cette non-qualification qui est assurée pour la prochaine Ligue des Champions. Seb, tu voulais dire quelque chose ?
Parce que je pense pas que ma course soit dans le même état d'esprit qu'à ce moment-là. En gros... Banco, vas-y Pablo, dépense et voilà. Aujourd'hui, justement, je pense qu'il veut essayer de freiner un petit peu à ce niveau-là. Et si l'OM n'est pas en Coupe d'Europe, je ne pense pas qu'il fasse venir plein d'internationaux. Et en gros, parce que c'était quand même risqué, et c'est un pari, qu'ils vont perdre finalement ce pari-là cette saison. Donc là, je pense qu'ils vont un petit peu calmer les choses.
Oui, moins d'internationaux, plus de joueurs à échelle nationale, j'ai envie de dire, à l'échelle française, même s'il faut aller chercher aussi des joueurs étrangers. Il y a aussi un grand chantier maintenant, c'est peut-être d'encadrer un petit peu plus les salaires. On a vu que les salaires de l'Olympique de Marseille cette saison, pour Huybert, c'était par exemple 500 000, 330 000 de moyenne pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Là aussi, il y a une mission de faire descendre un petit peu cette masse salariale pour économiser quelques millions d'euros à la fin de la saison.
Ça, c'est une certitude. Hein. Quand on dit que les joueurs sont surpayés, c'est surtout en rapport avec leurs prestations et puis surtout les objectifs atteints ou pas atteints. La problématique, comme j'ai dit, c'est que quand tu veux te séparer d'un joueur qui n'est pas performant, c'est que ce salaire-là pose problème. Et à un moment donné, je pense que même si le PSG est dans un autre monde, ils sont arrivés à des salaires avec beaucoup de variables, Alors c'est sûr que la base, elle est déjà très élevée, mais à l'échelle de l'OM, trouver aussi ce qu'on va appeler la carotte un peu pour les joueurs en fonction des résultats, des performances individuelles, pour pas non plus tout mettre de suite sur une base.
Mettre en place des bonus, c'est ça, des salaires qui tomberaient, des primes qui tomberaient en fonction des performances des joueurs, c'est ça que tu veux dire?
Oui, voilà, ouais, c'est ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, encore une fois, même si c'est un club à part dans le championnat de France. Mais je pense que ça peut être une des solutions. Mais tu le disais tout à l'heure, il y a déjà à voir l'entraîneur qui va venir, les joueurs qui sont dans l'effectif et qui sont encore sous contrat, qui eux souhaitent rester ou que l'entraîneur qui va arriver souhaite garder. Et à partir de là, ils pourront essayer de former un effectif assez rapidement.
Il y a aussi un vieux serpent de mer à l'Olympique de Marseille, je vais me tourner vers toi Yannick, c'est quand même la formation, la plus-value des jeunes. On sait que Lorenzi, avec Brest, il a fait quand même beaucoup. On a trouvé par exemple Romain Fèvre qui est arrivé pour 350 000 euros et qui est parti pour 12 millions d'euros du côté de l'Allemagne. On a Ibrahima Diallo qui est arrivé pour 2 millions et qui est reparti pour 12. Ou encore Romain Perrault, 2 pour 12 là aussi. Ça fait partie aussi des travaux que tu attends du nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille, à faire des bons coups avec des joueurs qui arrivent pour peu cher et que l'on développe au sein du club.
Clairement, alors il y a déjà effectivement cet aspect financier. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, Lorenzi fait partie des directeurs sportifs avec les plus belles plus-values financières en France, déjà en Europe sûrement. Donc évidemment que ça compte parce que derrière, on va chercher des finances supplémentaires pour aller chercher d'autres profils pour compléter un effectif. Et deuxièmement, au-delà de l'aspect financier sur le centre de formation, il y a aussi tout ce qui est, encore une fois, on le dit, l'Olympique de Marseille, et Marseille, c'est ultra particulier. Quand on forme un joueur dès son plus jeune âge, ou en tout cas plus jeune que quand on l'achète plus tard, il y a une vraie différence, je pense, au niveau de la fierté et de l'orgueil de jouer pour l'Olympique de Marseille.
Alors, on va terminer cette émission avec ma course, finalement, qui a choisi aujourd'hui de mettre en place Stéphane Richard, qui est considéré comme un chef d'entreprise, vraiment un financier pur et dur, et qui, lui, ne s'intéressera pas du tout aux sportifs. Et Grégory Lorenzi, qui, lui aussi, est connu pour faire beaucoup avec peu. Est-ce que là, on n'a pas un coup de sifflet de la part du propriétaire en disant « la fête est finie, maintenant, on va compter les sous, on va compter chaque euro dépensé et on va faire avec ce qu'on a finalement ?»
Pas à ce point-là, je pense. Pas à ce point-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont certainement calmer le jeu. Mais le propriétaire, il sait aussi quand même qu'il est à l'Olympique de Marseille. Ça fait un petit moment qu'il est là aussi. Il ne peut pas non plus se permettre de tout couper d'un coup. Parce que de toute façon, la formule, c'est que l'OM retrouve la Coupe d'Europe et surtout la Ligue des Champions le plus vite possible. Donc il faudra quand même avoir quelques moyens. Maintenant, c'est dans la manière de gérer qui sera certainement un petit peu différente. On sait que les supporters marseillais sont hyper exigeants. Il faudra continuer quand même à leur vendre un peu de rêve. Même s'ils pourront être un peu sceptiques par moment sur certains joueurs, comme je dis, le juge de paix, ça restera les résultats et la cohérence qu'il va y avoir dans le recrutement.
Alors, dernière question, qu'est-ce qu'on attend de cette saison, en tout cas ce mercato avec Lorenzi et la première saison en tant que directeur sportif l'année prochaine? Alors, on va se baser sur le fait que l'OM est en Ligue Europa, scénario le plus probable pour l'instant du côté des Marseillais.
Sébastien le disait tout à l'heure, si on considère que l'OM se qualifie en Ligue Europa, il y a quand même un match en milieu de semaine, en tout cas plusieurs matchs en milieu de semaine tout au long de la saison. Donc il faut densifier, je pense, l'effectif, aller chercher de la profondeur de banc. Il faut peut-être aller dégraisser un peu la masse salariale sur des joueurs qui sont peut-être trop payés par rapport aux performances qu'ils proposent. Et derrière, aller chercher, je pense, sur le marché national, mais pas que, des joueurs qui vont pouvoir compléter l'effectif à moindre coût, encore une fois, mais pour aller justement les faire monter en compétences et les faire monter en performance.
Seb, le mot de la fin.
Moi, ce que je lui souhaite surtout, c'est qu'on le laisse travailler, qu'il pose ses bases. Ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts en 2-3 mois. C'est un nouveau projet qui sera forcément un peu différent. Donc, il faut lui donner de la confiance, de la force. Comme je dis, après, il y aura les résultats. Moi, j'ai confiance en lui s'il arrive. J'ai hâte quand même de découvrir le nouvel entraîneur, si Habib Bey n'est pas reconduit, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, donc c'est surtout poser les bases et continuer à faire rêver les Marseillais. Même avec du moins bling-bling, le plus important, encore une fois, ça reste les résultats.
Et on suivra bien sûr l'arrivée de Grégory Lorenzi du côté de l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Seb, merci Yannick d'avoir été présent pour cette émission de Virage Marseille. Je le rappelle, délocalisé toute la semaine du côté du centre commercial Grand Vitrolles. Merci Yannick d'ailleurs de nous accueillir. Et si vous aussi vous souhaitez passer nous voir, voilà, vous voyez, tout le monde peut venir approcher et participer, pourquoi pas, à cette émission ici depuis le centre commercial Grand Vitrolles. Merci beaucoup de nous suivre. Vous restez avec nous, bien sûr. L'actualité revient dans un instant. À tout de suite.
C'était Virage Marseille avec Coco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil, santé, prévoyance, auto, habitation.